Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez RTF et tout de suite, c'est Cinéscopie, l'émission du cinéma et de la musique de film sur Radio Troublefête tous les lundis soirs à partir de 20h45, 21h jusqu'aux alentours de 22h30. Une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. Nous vous parlerons bien sûr de l'actualité du cinéma. Nous avons vu des films. Nous en ferons la chronique tout à l'heure. Nous vous parlerons également des sorties DVD, Blu-ray dans quelques minutes. Et puis, bien évidemment, comme c'est une émission consacrée aussi à la musique, au cinéma, nous écouterons quelques BO de films et on vous parlera, on va vous parler déjà, dès maintenant, des nouveautés discographiques concernant la musique de film. Alors, c'est vrai que début novembre, on était un petit peu inquiet parce qu'il n'y avait pas tellement de sorties, nos labels étaient en sommeil. Et depuis quelques jours, ça se réveille un petit peu et chez Quartet Records, nos amis espagnols, eh bien, on vient de nous annoncer la sortie de la musique d'un film de Gary Sinise, Miles from Home. Alors, c'était sorti chez nous sous le titre Rien à perdre, un thriller avec notamment dans les rôles principaux Kevin Anderson et Richard Gere. Et donc, c'est Gary Sinise qui avait fait ce film. Quartet nous en propose la bande son, la bande originale, une musique signée Robert Falk, très très belle BO qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une suite, d'une précédente parution sur une compilation promotionnelle réalisée par Robert Falk avec l'aide d'Intrada il y a pratiquement 20 ans. Et c'était une suite de 20-21 minutes et qui donnait un très bon aperçu de cette partition qui est vraiment dans l'esprit Americana. Donc si vous aimez Aaron Copland, dépêchez-vous d'aller sur le site de Quartet Records et de vous commander la BO de Miles From Home. Rien à perdre, c'était le titre français. Musique de Robert Falk, qui est un compositeur qu'on aime beaucoup d'ailleurs dans Cinéscopie. La France n'est pas en reste, puisqu'aujourd'hui le label Music Box nous propose deux nouvelles parutions. Tout d'abord, un compact disque consacré à Philippe Sard. Je pense que Philippe Sard a un contrat avec Music Box, parce que apparemment ils ont décidé d'éditer toute la discographie du compositeur français. Et tant mieux d'ailleurs, parce que à chaque fois, on redécouvre ces partitions qui sont sublimes. Alors, sur ce CD, il y a deux films. Tout d'abord, Hors la loi. Hors la loi, c'est un film réalisé par Robin Davis en 1985. C'est un film que Philippe Sard va faire tout de suite après Le Choc. Alors, parce qu'il a déjà collaboré avec Robin Davis sur Le Choc. Vous vous rappelez de ce film avec Catherine Deneuve et Alain Delon. Et il travaille aussi avec Robin Davis sur J'ai épousé une ombre avec Nathalie Baye. Voilà, et donc c'est leur troisième collaboration, ce film Hors la loi, avant une toute dernière collaboration qui sera La fille de Colline en 1989. Alors que Hors la loi, c'est un film qui nous raconte l'équipée sauvage d'un certain nombre de jeunes évadé d'un centre de redressement. Et du coup, le compositeur a conçu une partition, un petit peu westernienne. Et pour donner justement cette dimension un peu western, blues, rock parfois aussi, il fait appel à des pointures, notamment Eric Weisberg au banjo. Alors Eric Weisberg, on le connaît parce que c'est lui qu'on entend au banjo dans Deliverance de John Borman. Il y a également Steve Gadd à la batterie, Don Brooks à l'harmonica, le pianiste Warren Bernhardt, le percussionniste Tristan Fry et l'orchestre de Billy Byers. Donc dans cette partition vraiment très intéressante pour Hors la loi. Et le deuxième film qui est représenté sur ce CD, c'est un film qui s'intitule La nuit ensoleillée, un documentaire de Patrick Segal réalisé en 1981. Et qui est un documentaire qui est consacré aux athlètes paralympiques. Et pour ce documentaire, Philippe Sard décide d'écrire une partition jazz interprétée par un casting d'orfèvres, puisque l'on y retrouve tout Stillmans, Larry Coryell, Didier Lockwood, avec également la participation du trompettiste Maurice André et du violoncelliste Frédéric Lodéon. Eh oui, voilà, donc des partitions vraiment originales pour le coup. Hors la loi et La Nuit Ensoleillée, c'est chez Music Box. Et Music Box nous propose, alors attention, c'est édité à 500 exemplaires, donc si vous souhaitez vous procurer cet album, n'hésitez pas à aller sur le site de Music Box dès maintenant. Une deuxième publication, c'est celle d'une série télé, Fortitude, une musique composée par Gabriel Yared, pour ce téléfilm, parce qu'en fait Fortitude c'est un téléfilm sorti sur les écrans français en 1994 qui est un téléfilm, c'est une coproduction internationale adaptée par David Ambrose, réalisée par Varys Hussein, et qui raconte finalement l'opération Fortitude, donc les opérations militaires qui ont eu lieu lorsque les alliés ont débarqué en 1944. Voilà, donc Cette opération avait d'ailleurs été décrite par un journaliste et romancier, Larry Collins, et ce livre qui a été adapté donc en téléfilm. Donc on a fait appel à Gabriel Yared pour la musique de ce téléfilm, et franchement je vous conseille de vous procurer également la BO de ce téléfilm. Voilà. Voilà pour les sorties, pour moi, les principales sorties discographiques de la semaine. Alors c'est bien parce que c'est vrai qu'on était un petit peu inquiets. Music Box et Quartet étaient un petit peu en sommeil. Voilà. Bon, apparemment, là, c'est bien reparti, sur de bonnes bases en tout cas. Et on attend notamment de se procurer toutes ces belles galettes. Mon cher Laurent, comment vas-tu? Tu passes une bonne semaine?
Eh bien, bonsoir. Oui, très très bonne semaine. Le programme cinématographique est assez chargé, dense.
Oui, c'est vrai.
J'espère que vous nous avez écouté la semaine dernière et que vous avez été fréquenté les salles obscures. Et puis, comme tu le disais, Chris, que, eh bien, ma foi, c'est vrai que les éditeurs de musique de film se réveillent un petit peu. Et enfin, après, c'est assez coutumier chez cet éditeur. Et donc là, pour le coup, je voulais quand même vous en parler parce que quand même deux titres. Alors, c'est pas des. Alors, c'est une sélection, vous savez. L'éditeur australien Dragon's Domain annonce des futures sorties. Donc, il va falloir être patient parce que. Ça met un petit peu de temps entre la sortie réelle, officielle, et aussi les possibilités d'acquisition, en fait.
L'Australie, c'est un peu loin aussi. Hein.
Voilà. Et c'est surtout qu'ils viennent à la nage, donc c'est un petit peu compliqué.
C'est ça.
Donc, il y a, vous savez que pour ceux qui sont assez férus de musique de film, eh bien, le label a initié depuis fort longtemps des albums dédiés à des compositeurs, et donc il y a plusieurs volumes. Et donc là, on est au volume numéro 2 concernant ce compositeur qu'on affectionne particulièrement, on le dit souvent, mais c'est la vérité, pour Bruce Broughton. Donc il y a un volume numéro 2, celui le concernant, avec Warm Springs et Bobby's Girl. Voilà. Et donc ce sont des pièces orchestrales. Donc on attend beaucoup, en tout cas, de ce volume. Et puis un autre volume. Là, forcément, si on touche un petit peu à ma faiblesse, je dirais. nous avons un album consacré à ce compositeur que, là aussi, j'adore. C'est Lee Aldridge, qui Goes to the Olympics. Et donc, là aussi, je pense que ça va être assez gratiné, dans le sens où je pense qu'il va y avoir une belle formation, et on pourra découvrir aussi The Spirit of the Olympic, Barcelone 1992, Lila Hammer, donc ça date de 1994, et 16 jours de gloire. Donc c'est inclus avec donc le reste. Donc, Là aussi, eh bien, on vous en dira des nouvelles.
Voilà, ah oui, ça m'intéresse, parce que quand on connaît l'écriture de Lee Aldridge, ouais, on se dit que ça va être extraordinaire.
Et donc, c'est une sortie qui comporte en fait deux CD.
Ouais.
Donc, voilà, je pense qu'il y aura un large panel de sa collaboration avec l'Olympisme. Et donc, ah oui, forcément, ça... Je pense qu'on va toucher un petit peu l'excellence, là,
ouais,
pour le coup.
Ouais, là, il me tarde d'écouter cet album. Mais bon, on va prendre notre mal en patience, parce que, comme tu l'as dit, voilà, c'est toujours un petit peu long d'acquérir ces éditions de Dragon Domain. Ça, je sais pas pourquoi, mais bon.
Voilà. Oui, après, il y a des salves comme ça, et dans les salves, il y a aussi des sorties qui sont différées, on ne sait pas pourquoi.
Ce sont des éditions limitées, en fait, je ne sais pas demander.
Alors, chez Dragon's Domain, c'est tout limité.
C'est toujours limité chez
eux. C'est toujours limité, donc c'est rapidement, souvent d'ailleurs, épuisé. Mmh. Alors après, vous pouvez vous le procurer, vous savez, en dématérialisé, enfin, ça ne fait pas pareil quand même, voilà.
Ouais.
Et donc au passage, un troisième titre, là pour le coup, alors, je pense que c'est un titre hommage, si je puis dire, parce que la bande originale avait bénéficié déjà de quelques éditions CD par endroit il y a quelques années. Et donc là, Dragon's Domain nous le repropose, parce que je pense que de mémoire, en grattant ça et là, je crois que l'édition est épuisée depuis fort longtemps. C'est The Handmaid's Tale de Rushi Sakamoto. Donc, donc voilà. Donc ça aussi, c'est en prévision. Voilà, on espère que ça arrivera le plus vite possible. En tout cas, pour ce qui concerne Bruce Brosson et Lee Aldridge, on essaiera de vous le diffuser, eh bien, quand on les possédera.
Oui, c'est vrai que...
Alors on peut espérer que ça va être quand même dans le premier semestre de 2026.
En tout cas, pour Lee Aldridge, à mon avis, il aura été dans une forme olympique pour ses enregistrements.
Magnifique, magnifique.
Bon,
je n'aurais pas
j'avoue,
fait
j'avoue, c'est un petit peu facile, mais bon... Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'on aime beaucoup Lee Aldridge et Bruce Brosson, donc voilà de belles initiatives de la part
Bruce Brosson,
de Dragon's
Domain. C'est un compositeur là aussi qu'on vous diffuse régulièrement, mais c'est vrai que c'est un compositeur qui est très difficile à trouver, enfin en tout cas sur le label, parce qu'il y a beaucoup de labels, enfin il y avait un label en particulier, c'était Intrada qui commercialisait beaucoup de ses titres, donc forcément aujourd'hui ils sont tous épuisés, parce qu'Intrada c'est pareil, ce sont des labels qui éditent essentiellement en édition limitée, voilà.
Intrada qui a annoncé, je ne sais pas si tu es au courant, Laurent, le réenregistrement de la musique du film La Nuit du Chasseur. Alors, ça va être une campagne Kickstarter, je crois, pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Et donc, c'est l'objectif, c'est de... Parce qu'il y avait déjà eu un disque, en fait, de La Nuit du Chasseur, mais c'était il y avait des dialogues et puis surtout une narration. Donc, c'était l'histoire qui nous était racontée. Et donc, la musique en tant que telle, elle était là, mais elle n'était pas mise au premier plan. Donc là, ça sera un réenregistrement de ce film culte, bien
oui,
sûr.
Oui.
Voilà. Donc, pour l'actualité... discographique, des choses fort alléchantes, ma foi.
C'est en fait.
Alors justement, nous allons commencer l'émission en musique, peut-être.
Oui, et d'ailleurs, par un inédit qu'on ne vous a jamais diffusé dans Cinéscopie, concernant un film de 1956, réalisé par David Miller, avec Pedro Armendáriz.
Oui.
Marisa Pavane.
J'essaie de trouver au fur et à mesure, hein, parce qu'il aime bien jouer Laurent, mais tu as raison.
Film historique, film américain.
Ouais.
Et donc, ouais, forcément, on y retrouve, alors ça c'est une petite surprise, on y retrouve Roger Moore.
Ah, alors attends, là ça commence à se préciser. oui, alors attends, ça serait pas... Ça passerait pas à la cour d'Angleterre, cette histoire.
Alors, bon, c'est à la cour de François Ier.
Ah, bah voilà. Moi, j'ai tout faux.
Et donc, ça raconte l'histoire de la comtesse Diane de Brézé. Alors, je reviendrai au titre.
Hein, mais, oui.
Qui vient de défendre la tête de son père, Jean de Poitiers, de Saint-Vallier, soupçonné de complot contre le roi. Et donc, elle obtient finalement sa grâce en acceptant de prendre en charge l'éducation du prince Henri, dont le roi déplore les mœurs grossières. Le jeune homme, d'ailleurs, ne s'intéresse, selon lui, qu'à la chasse, aux chiens et aux chevaux. Et donc, parallèlement, François Ier a arrangé le mariage du prince avec la jeune Catherine de Médicis. Et pourtant, avant que celle-ci n'arrive à la cour de France, hein, je vous fais un cours d'histoire en même temps, Diane et Henri sont, malgré leurs 20 ans d'écart, déjà unis par une liaison passionnée à 38 et 18 ans. Et donc, d'emblée, Catherine de Médicis déteste sa rivale, mais doit supporter sa présence constante auprès du prince, même lorsque ce dernier, sous le nom d'Henri II, accède au trône après la mort de son père et de son frère aîné, et victime d'un accident au cours d'un tournoi, eh bien, Henri meurt le 10 juillet 1559, pardon, il faut que je vous précise.
Oui,
pas 1959.
Non, c'est ça.
Et le pouvoir revient à Catherine de Médicis. Dès lors, le sort de Diane est aussi entre ses mains. Et donc, le film s'intitule Diane. Et le titre français, c'est Diane de Poitiers.
Ouais.
Et la musique, au passage, est signée Miklos Roza.
Voilà.
Et alors,
très belle musique, d'ailleurs.
Ce que je n'ai pas dit, l'actrice principale, c'est Lana Turner. Voilà.
Ah ouais, non, alors là, quand même. Non, mais c'est pour ça qu'il gardait les indices pour la fin, là. Non, quand tu as commencé à parler de Diane de Poitiers, là, je me suis dit, voilà, c'est celui-là. Et Lana Turner, effectivement. Et Roger Moore, là, un casting assez surprenant.
Oui.
Voilà. Et Miklos Roza, bah, comme d'habitude, alors là, je dirais même qu'il compose une musique, c'est celle que je préfère. Je trouve qu'il y a une très belle mélodie dedans. C'est vraiment super.
Magnifique. Et donc là, on va partir pour une suite qui est présente sur un superbe album que je vous conseille. Là encore, si vous chinez, eh bien, c'est un double album. C'est chez MGM.
Ah, c'est ça, Miklos Roza chez MGM, à la MGM.
Voilà, Miklos Roza à la MGM. Mmh. Alors, il y a eu beaucoup d'albums hein, comme ça sur, à la MGM. Mmh. Et donc, c'est bien sûr une pépite, comme vous pouvez vous en douter. C'est vraiment les trésors de la Metro Goldwyn Mayer. Mmh. Et forcément, le film hein, a été produit par la Metro. Et donc,
Oui, t'es spécialisé, la Metro, c'était spécialisé dans les films historiques de prestige.
Oui, ouais.
Hein, on pense à Ivanhoe, par exemple.
Et donc, on est parti pour 10 minutes de Diane de Poitiers. Et on se retrouve juste après bien pour vous annoncer quelles sont les sorties à la vidéo. Voilà.
Eh ben voilà, on fait
quelle
comme
surprise,
ça.
Mais comme tout, comme chaque lundi, c'est pareil. C'est identique. Et donc là, bon, il y a une mise en jambe, hein, vous vous en doutez. Voilà, les éditeurs se réveillent un petit peu. C'est le réveil plus ou moins dur, hein, selon les éditeurs, de la fin de l'année 2025. Ils ont vendu ou pas. Et donc, du coup, ben voilà, ils peaufinent en tout cas leur sortie cinématographique à la vidéo sur déjà le premier semestre 2026. Allez, tout de suite, Diane de Poitiers. rubrique vidéo.
Et oui, la rubrique vidéo, on va vous parler de l'actualité du DVD, du Blu-ray, il est 21h25, nous sommes en direct, vous écoutez Cinéscopie, le magazine du cinéma et de la musique de film. Alors, peut-être un petit rappel, parce que je crois que Laurent, vous en avez parlé il y a quelque temps, un film paru chez Sidonis Kalista, Le Dernier Monde Cannibale. Alors je vous en parle parce que c'est un film de Ruggero Deodato, et on peut dire que Ruggero Deodato, d'abord, c'est plutôt un excellent metteur en scène qui a œuvré essentiellement, c'est vrai, dans le cinéma de genre, la série B, mais ce Dernier Monde Cannibale, c'est une de ses bonnes réussites. Alors c'est un film qui précède un autre film beaucoup plus connu de Ruggero Deodato, qui est Cannibal Holocaust. En tout cas, si vous voulez découvrir donc ce film qui date des années 70, milieu des années 70, c'est possible chez Sidonis Kalista, Le Dernier Monde Cannibal, un film avec Massimo Foschi, Mimi Lai, Ivan Rassimov. Ça a été restauré en 4K. Alors attention, le film est quand même interdit aux moins de 16 ans, hein, parce que c'est quand même assez croquignolesque. Il y a un livret rédigé par Marc Toulek, un livret d'une cinquantaine de pages, et une présentation du film par Christophe Gans. Voilà, donc je vous rappelle le pitch. En route pour l'île de Mindanao, un avion avec 4 passagers s'écrase dans la jungle, et la nuit tombée, les rescapés sont agressés par des cannibales, et seuls Robert Harper et Rolf parviennent à s'échapper. Mais très vite, les difficultés rencontrées dans cette forêt hostile les séparent, et Rolf disparaît. Harper se retrouve donc tout seul, perdu, affamé, il est capturé par une tribu pour être soumis aux pires atrocités. Voilà, donc allez-y, de ma part, vous allez voir si vous aimez les films d'horreur. Mais en plus, celui-là, il est quand même plutôt bien fichu, et voilà, Ruggero Deodato, qui est quand même un bon metteur en scène. Là aussi, Laurent vous en a parlé, mais je préfère vous le rappeler aussi, eh bien, le film « Danger diabolique » de Mario Bava est enfin sorti, là aussi chez Sidonis Kalista, le super bandit diabolique assisté de sa fiancée Eva Kant nargue la police et le syndicat du crime. Alors, une belle distribution, John Filippo, Marie Zamel, Adolfo Celli, Claudio Gora et Renzo Palmer, et puis Michel Piccoli aussi, qui livre une belle prestation. Alors là, par contre, je crois qu'on n'en avait pas parlé, un film français qu'on avait vu, enfin, moi en tout cas je l'avais vu, et j'avais dû vous en parler dans Cinéscopie, ça s'appelle Les Règles de l'Art. L'histoire de Jonathan, expert en montres de luxe, qui mène une vie plutôt monotone et qui voit sa vie basculer lorsqu'il s'associe à Eric, un petit receleur et un escroc. Fasciné par le train de vie d'Eric, Jonathan perd toute mesure. Tout s'accélère quand, pour répondre à une commande d'Eric, Joe, cambrioleur de génie, vole 5 chefs-d'œuvre au musée d'art moderne de Paris en 2010. Dès lors, les 3 hommes sont entraînés dans une spirale incontrôlable. Voilà, un film vraiment touchant. C'est une comédie, mais on pourrait dire douce-amère, comédie un peu dramatique, avec une magnifique distribution. Melville Poupeau, Julia Piaton, Sofiane Zermani, Steve Tiencheu, Nitsa Benchetrit. Vraiment, moi je vous conseille cette comédie policière, Les Règles de l'Art, et c'est Le Pacte qui vous propose ce film qui paraît en Blu-ray. C'est un film réalisé par Dominique Bommard, et c'est je sais pas s'il est déjà dans les bacs, mais il est censé sortir là. Il est sorti, oui.
Ah, il est déjà sorti, depuis un petit moment, depuis voilà. On va dire je pense octobre-novembre.
Ah même, alors je ne sais pas si on en avait parlé de ces règles de l'art.
Alors j'ai un doute. On n'en a pas vraiment parlé, parce qu'en plus je crois de mémoire que ce film est sorti sous le label Exclus Enseigne.
Voilà. Ah, d'accord. Alors, peut-être donc, que c'est une... il va peut-être ressortir.
Et
du
donc,
coup, là.
Souvent, enfin, sur les titres récents, eh bien, la sortie officielle en vidéo physique est différée pour laisser l'exclusivité à l'enseigne qui l'a sortie en primauté. Voilà.
Alors, en tout cas, c'est l'occasion, évidemment, de le redécouvrir, ce film, hein, parce qu'il est quand même, moi, j'avais trouvé plutôt réussi. Assez touchant et puis amusant aussi, parfois. Alors là, un film que je n'ai pas vu, mais bon, peut-être par curiosité, on peut essayer ça. Ça s'appelle The Last Refuge, le dernier refuge. Alors pourquoi c'est peut-être intéressant? Parce que c'est réalisé par Destry Alline Spielberg. Ah ben voilà, donc c'est un film de Spielberg, mais évidemment c'est un enfant de Steven Spielberg. Alors, c'est un film de science-fiction qui tourne qui vire au film d'horreur. C'est un film qui nous entraîne dans un monde, on pourrait dire post-apocalyptique, puisqu'à la suite d'une épidémie mondiale qui a décimé la quasi-intégralité des adultes, un groupe d'orphelins tente de quitter les États-Unis en quête d'une vie nouvelle. Mais leur voyage tourne au cauchemar lorsqu'une femme leur ouvre sa maison pour les mettre à l'abri. Mais est-ce vraiment pour les mettre à l'abri? Voilà, un film avec, dans la distribution, Michel Dockery et Giancarlo Esposito. C'est The Jokers qui vous propose ce film édité en Blu-ray. Alors on l'a pas vu, mais bon, peut-être que ça mérite le détour. Voilà. Alors, un autre film, là par contre, que j'avais beaucoup aimé, moi personnellement, une comédie américaine réalisée par Michael Angelo Covino, Libre-échange. Alors que sa femme vient de demander le divorce, Carré court chercher du soutien auprès de ses amis Julie et Paul. Il découvre alors que le secret de leur bonheur est qu'ils sont un couple libre. Et oui, voilà, c'est pour ça que le film s'appelle Libre-échange. Alors évidemment, tout cela va dégénérer, ça donne une comédie assez méchante, mais tout à fait jouissive. Donc je vous conseille ce Libre-échange, qui était vraiment un film d'auteur, puisque le réalisateur est également l'auteur du scénario, avec son complice Kyle Marvin. Et dans la distribution, on retrouve évidemment Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, et puis surtout les deux superbes actrices, Dakota Johnson et Adria Arjona. Je vous conseille ce Libre-échange. Un film d'horreur sorti en 2025 maintenant, c'est un film américano-australien, Together. Un film qui est un peu dans la mouvance de ces films de ce qu'on appelle le body horror. Alors c'est l'histoire d'un couple, Tim et Emily, qui sont ensemble depuis des années et qui décident de tout abandonner pour s'installer à la campagne. Alors que les tensions sont déjà vives, eh bien une force surnaturelle transforme leurs rêves en cauchemars, menaçant leur relation, leur amour, jusqu'à leur intégrité physique. Je vous en dis pas plus, mais c'est vrai que c'est un film assez surprenant, assez bien réalisé et surtout très bien interprété par Dave Franco et Alison Brie. Donc ce Together sort en Blu-ray chez Metropolitan. Je trouve que c'est un des meilleurs films d'horreur. On n'en avait pas beaucoup parlé l'année dernière, mais Together mérite d'être vu. Restons dans le domaine du film d'horreur avec maintenant un slasher réalisé en 1986 par Fred Walton, Weekend de terreur. Alors là, c'est un combo, c'est-à-dire que vous avez le Blu-ray et le DVD, et puis un livret de 24 pages, rédigé comme d'habitude chez Rimini, je crois que c'est chez Rimini Édition, par Marc Toulac. Alors l'histoire est toute simple, un groupe d'amis d'école se retrouve pour passer le week-end du 1er avril dans un luxueux manoir sur une île privée que possède l'une d'entre eux. Et l'un après l'autre, les invités disparaissent. Ça ressemble un petit peu à un Agatha Christie, hein, les Dipty Nègres, un peu cette histoire. Voilà, mais voilà, c'est plutôt sympathique ce week-end de terreur. C'est un slasher qui est sorti chez nous en France, qui a une bonne petite réputation. Et donc, on peut aisément se procurer ce film. Fred Walton, c'est pas un mauvais metteur en scène, donc on peut y aller. Et ben voilà pour ma petite sélection du jour. Voilà, donc Together, Week-end de terreur. Et puis évidemment, Libre-échange, comédie désopilante. Et puis, alors j'espère que ça va se retrouver dans les bacs, ce film sur l'art avec Melville Poupeau, Les règles de l'art. Voilà, c'est le titre du film. Mon cher Laurent, je me tourne vers toi. Et qu'est-ce que tu nous proposes ce soir?
Alors, je ne vais pas vous proposer grand-chose, mais je vais vous annoncer des sorties.
On est impatient de savoir ce qui va arriver.
Alors, une sortie peut-être attendue d'ailleurs, un film qui est resté un certain temps à l'affiche, qu'on n'a pas vu dans Cinéscopie d'ailleurs. C'est la dernière collaboration de Gilles Lellouche avec Cédric Jimenez pour ce film qui va sortir le 18 février, donc en support physique, DVD, Blu-ray et UHD Blu-ray. Et donc, le film a été plutôt bien accueilli en salle parce qu'il a rassemblé 1,3 million de spectateurs, donc c'est déjà pas mal, pour ce film qui s'intitule Chien 51.
Ah oui, ça me surprend d'ailleurs qu'il ait eu aussi bien marché finalement. Ouais. Ils espéraient peut-être davantage dans le fond, mais
bon. Et donc, on retrouve Gilles Lellouch et Adèle Exarchopoulos. Donc c'est Studio Canal qui le propose, et donc ça sera dans les bacs le 18 février pour ceux qui attendent ce film-là. Autre film, alors peut-être que ça va peut-être te satisfaire, parce que je sais que tu es un friand de ce cinéma-là, enfin moi aussi, mais c'est vrai que... petit penchant.
Et donc, tu m'intrigues, là.
Un film de 1950 qui va sortir dans ce sera le prochain titre de la collection Make My Day, qui va sortir plutôt fin février, le 26 pour être plus précis. C'est un film qui a été réalisé par Giuseppe De Santis.
Ah, alors là, déjà, le cinéma italien, c'est vrai que j'aime bien. C'est un film italien, je présume.
Bah oui.
Ah oui.
avec Lucia Bosé,
ouais,
et Raph Vallone.
Ah oui, beau casting.
Voilà. Pour, en fait, un film qui s'intitule Non c'è pace tra gli ulivi.
Que je n'ai pas vu.
Voilà.
Donc, en tout cas, tu débrouilles pas mal, hein, en italien aussi. Là,
oui, mais c'est que je travaille ah ouais, voilà, d'arrache-pied.
Ouais.
Sur l'italien en ce moment. Oui, je me diversifie.
Tu as raison, c'est très bien.
Donc le titre français, c'est Pax sanglante. Voilà. L'histoire d'un personnage qui est démobilisé, qui s'appelle Francesco et qui retrouve sa région natale, la Ciociaria, au lendemain de la guerre. Et donc sa famille est par contre dans un total dénuement, ayant été dépouillé de son troupeau de moutons par le voisin Bonfiglio. Voilà. Bon, après, c'est une longue histoire. Mais bon, film, à mon avis, très intéressant, comme à l'accoutumée d'ailleurs chez Make My Day. Voilà. Donc, ça oui, sort le 26 février. Notez-le sur vos tablettes si vous êtes fan de grands classiques du cinéma italien. Pour ce qui est du film de patrimoine français, eh bien, c'est TF1 qui va faire le buzz, si je puis dire, au mois de février, donc le 14 février, pour être plus précis, une comédie qui est annoncée par... TF1 Studio, l'atelier d'image 7-7, dans une édition combo, donc 4K et Blu-ray, avec donc, bien sûr dans une version restaurée, une interview du scénariste Francis Weber par son fils sur la genèse du tournage, ainsi que le film qui est vu par Jean-Marie Poiré et Vincent Perrault. Voilà. Et donc le film, on y retrouve deux grands acteurs, qui aujourd'hui sont disparus forcément, c'est Jacques Brel et Lino Ventura pour le film L'Emmerdeur.
L'Emmerdeur, alors ça c'est formidable, ce sera une version restaurée
C'est une version restaurée, je confirme. Juste un petit détail que je n'ai pas donné pour le film de Cédric Jimenez, malgré son succès en salle, eh bien semble-t-il que l'édition qui va sortir donc à peu près à la mi-février, eh bien il n'y aura aucun bonus de programmé. Donc ça c'est assez étonnant. Mais enfin bon, voilà. Et puis alors, on continue dans le cinéma que tu affectionnes particulièrement. Là, cinéma horrifique, franco-italien.
Oui.
Film très attendu parce qu'on en parle souvent dans Cinéscopie. Eh bien, la date est arrêtée, ça sera le 17 février.
Ah.
Dans une édition combo, 4K et Blu-ray, ainsi qu'une édition prestige. Je ne sais pas trop ce que ça sera le contenu, mais enfin, voilà. Pour un film où on retrouve Barbara Bach, Claudine Auger, musique signée Ennio Morricone, La Tarentule au ventre noir, réalisé en 1971.
Film de Paolo Cavara, avec une belle distribution féminine, puisque il faut également rajouter Stefania Sandrelli dans la distribution, Barbara Boucher, et Giancarlo Giannini, je crois, dans le rôle de l'inspecteur de police qui mène l'enquête.
Je crois que c'est Sidoni me semble-t-il, l'édite.
Voilà. C'est vrai que ce film, La Tarentule au ventre noir, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, parce qu'il y a eu toute une vague de rééditions ou d'éditions de Gialli, et malheureusement, ce titre n'était pas paru. J'en profite pour dire, peut-être que tu voulais l'annoncer aussi, je crois que c'est chez Rimini Éditions, leur premier Giallo, Le Tueur frappe toujours trois fois, qui est prévu dans cette année, avec dans ce film John Mills, Robert Hoffman dans les rôles principaux. Donc, et Luciana Paluzzi également.
On reste chez Sidoni. Et là, pour le coup, c'est le premier film américain d'un réalisateur français qui était parti de France suite à la chasse aux sorcières qu'avait engendré le film Lacombe Lucien.
Ah mais, Louis Malle alors.
Ben voilà.
Ah oui.
Et là pour le coup, c'est pour le film La Petite, où on retrouve Brooke Shields, Cass Carradine, Suzanne Sarandon. Et donc le film, semble-t-il, à l'époque de sa sortie, avait généré aussi une certaine bronca pour son côté un petit peu sulfureux de son sujet. Et donc, ce titre polémique sera édité en DVD, Blu-ray, DVD avec piste VF et version originale sous-titrée, donc chez l'éditeur Sidoni, le 14 février.
Ah, de belles choses en perspective.
Et puis, on parlera quand même un petit peu de terreur sur la ligne, si on peut dire.
Oui. Ah ben, ça ne serait pas un film de Fred Walton
Pour
non.
Une production universelle. Tu l'as peut-être vu d'ailleurs, Black Phone 2.
Ah oui, non, effectivement. Je l'ai vu, Black Phone 2, oui, tout à fait.
Produit par Blumhouse.
Oui, je pensais que tu allais parler de Terreur sur la ligne, le film, parce que...
Non. Et donc là, il est annoncé pour le 25 février. Alors là, par contre, DVD, Blu-ray, Ultra HD, VO, VOST...
La totale.
On a l'embarras du choix. En plus, la piste son, il y a une piste son en Dolby Atmos. Pour ceux qui recherchent, je dirais, le NEC Plus Ultra.
Ah, ça peut être efficace sur ce film.
Voilà. Et une édition métal aussi qui est prévue. Donc voilà. Et puis, parmi les bonus, il y aura très certainement des scènes coupées et un sujet aussi sur le casting de ce film.
Non, c'est très bien, parce que bon, en plus, bon, c'est quand même un film plutôt bien réalisé, qui est même formellement plus ambitieux que le premier, même si je crois que je préfère quand même le premier, mais enfin bon, là, on a une suite qui se tient. Alors, j'ai apporté quelques réserves, parce que, voilà, notamment concernant le scénario et aussi sur le fait que certains personnages secondaire n'était pas suffisamment développé à mon goût, mais bon, après, le film a ses qualités, et en tout cas, je pense que l'image et le son, ça va être top.
Et alors, on reste chez Sidonie, parce que...
Décidément, ils sont à l'honneur ce
soir. Ça cartonne, parce que ça fait longtemps qu'ils sont sur le projet. Et nous, moi personnellement, je suis assez curieux de découvrir cette série, parce que je crois que c'est une première. Hein, donc un grand classique de 1959. Elle va être éditée en haute définition. Alors, ça sera la première saison. Parce que tout simplement, il n'y a que la première saison où le matériel haute définition est disponible. Soit 22 épisodes. C'est dans le milieu, c'est du western. Hein. Mm-hmm. Alors, pour le coup, il y a encore quelques petites difficultés. C'est pour ça qu'elle ne va pas arriver tout de suite. Mmh. C'est qu'en fait, l'éditeur a des soucis pour récupérer en fait, les sous-titres pour la version originale auprès de l'ayant droit. Et vu l'énorme coût que représenterait de refaire tout le sous-titrage en entier, eh bien, il se pose la question s'il faut ou non sortir ce western sur support haute définition. Seulement en VF. Alors ça serait quand même une grossière erreur.
Oui, effectivement. Mais donc, de quel western s'agit-il ?
Eh bien, on y vient. Hey. Alors, je crois, me semble-t-il, que c'est la première apparition d'un grand acteur, réalisateur, compositeur.
Clint Eastwood.
Voilà.
Voilà donc. Pour Rawhide.
Voilà. Il est totalement inédit. En haute définition, donc ça va être vraiment une première si on arrive à découvrir. Alors j'espère qu'ils vont trouver quand même la version originale, enfin les sous-titres, hein, parce que du coup ça serait dommage de sortir ce genre de programme qu'avec une seule VF.
Moi, je crois me souvenir que la VF qui nous avait été proposée à l'époque était pas mal, hein. Je crois que c'était chez Canal qu'ils avaient sorti. C'était pas mal. Et puis bon, il y a la chanson Rawhide aussi qui est superbe. Donc non, c'est une bonne série western, ça. C'est sympa. Donc, voilà, pour les fans d'Eastwood en plus.
Alors là, par contre, on n'a pas vraiment de date, parce que c'est annoncé pour le 3 février, mais je crois que ça a été encore repoussé, parce que ce titre-là a été annoncé fin d'année dernière, et il est encore, semble-t-il, repoussé. C'est un néo-western... qui date de l'année 2000 de Christopher McQuarrie.
Ouais, c'est bon.
Au casting Juliette Lewis, James Caan, Ryan Phillippe et l'acteur. Enfin,
je réfléchis au truc.
Benicio del Toro, donc pour une version qui paraîtra donc là encore en 4K et Blu-ray. Pareil, il y aura une piste en Dolby Atmos. Il y aura aussi des commentaires audio du réalisateur et aussi du compositeur avec un making-of. Et donc, c'est proposé par l'atelier d'image et pour le film Way of the Gun.
Ah oui, alors c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas vu, j'avoue.
Oui, bah, très intéressant. Ouais, j'avais vu à l'époque, ça fait un petit moment, ouais. Mais voilà, film...
Bah, écoute, oui, effectivement, c'est un titre intéressant. Donc, Way of the Gun, ouais, en plus, un casting phénoménal.
Et puis, on va en terminer avec de l'animation.
Oui.
Là encore, c'est annoncé sur la fin du mois et c'est reporté au mois de février. Un grand classique de l'animation japonaise, réalisé par Mamoru Hosoda, réalisé en 2012 pour les enfants loups Ameyuki. Mmh. Et donc là, ça va sortir dans un packaging assez fourni parce qu'il y a un 4K. Et Blu-ray, édition métal, avec une VF, une version originale sous-titrée japonaise et aussi anglaise. Et là, il y aura une édition de luxe qui comportera aussi des bonus en version originale sous-titrée en japonais, et aussi la présentation sur la sur scène, un making of et deux bandes annonces en version longue avec le réalisateur. Voilà.
Effectivement.
Je crois que, me semble-t-il, c'est chez Anime, me semble-t-il. Hein, ou Casse, enfin, ou Gazé.
En tout cas, effectivement, une édition qui m'a l'air riche en bonus, en contenu.
Alors là, ça fait partie, pour ceux qui sont vraiment très érudits dans le registre de l'animation japonaise, c'est incontournable.
Oui, voilà. Puis c'est vrai que le film est quand même une réussite. Donc, on attend ce coffret avec également impatience. Et bien, voilà. Vous savez que, voilà, il y a de très très belles choses qui arrivent. Hein. Certaines sont déjà dans vos bacs. Donc, surveillez bien un peu toute cette actualité. Il est 21h50 à la pendule de RTF. Et oui, vous écoutez Cinéscopie, le magazine du cinéma, de la musique de film, de la vidéo, du support physique. Et on va faire une petite pause musicale avant de vous parler des... Voilà, nous avons vu quelques films cette semaine, on va vous en faire un peu la chronique tout à l'heure. Mais tout de suite, Laurent, une partition musicale, un film...
Voilà, un film réalisé en 2005, pour un film, une comédie, un film pour enfants, qui a été réalisé en 2000, sorti en 2005. Il y avait donc... quand même, somme toute, des grandes pointures, comme Dustin Hoffman. Mm-hmm. C'est pour le film Zigzag, les talons zébrés.
Ah oui. oui, effectivement, oui.
C'est une petite pépite, ce film.
Oui, c'est ça, c'est mignon.
Parce que ça raconte l'histoire d'un bébé zèbre qui est abandonné par un cirque et qui est recueilli par les Walsh, père et fille fermiers, qui le nomment Zigzag. Et donc, le zèbre est donc persuadé d'être un cheval de course. Oui. Et avec l'aide de ses amis de la basse-cour, eh bien, Zigzag poursuivra son désir de faire la course avec les purs sangs. Voilà. Oui, oui, oui. Et alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que la partition a été confiée à un compositeur qui n'a pas trop l'habitude du registre vraiment avec un large orchestre symphonique, c'est Marc Hicham.
Oui, c'est Marc Hicham, et finalement, s'en sort vraiment avec les honneurs, même plus que ça, parce que je trouve que c'est plutôt une réussite.
Hein. C'est une grande réussite. Ah, oui. Et donc, on va vous proposer une suite orchestrale de 7 minutes, et franchement, c'est du pur bonheur. Ouais. Si vous aimez un style par moment un petit peu pompier, eh bien...
Oui, oui, côté un peu héroïque, parce qu'évidemment, oui, il y a cette compétition. Est-ce que Zigzag va l'emporter?
Mais bon, c'est assez surprenant de Marc Hicham, parce que bon, son registre musical est un petit peu plus intimiste, normalement, enfin, en règle générale.
Oui. Et puis, il s'oriente aussi souvent vers le jazz, choses comme ça.
Et aussi, un peu moins inspiré dans sa partie... où en fait ce sont des compositions à 100% synthétiques, où oui. Là c'est un petit peu plus difficile d'accès, mais là franchement c'est du pro bonheur, 7 minutes d'aventure en compagnie de Marc Hicham, et nous on se retrouve pour la sélection des films de la semaine. Tout de suite, Racing
Stripes
Swap ou Zigzag
tout simplement.
Les films de la semaine, ce soir.
L'affaire Boujarski de Jean-Paul Salomé avec Reda Kateb, Bastien Bouillon et Sarah Giraudot. Grand ciel de Akihiro Hata avec Damien Bonnard, Samir Ghesmi et Mouna Soualem. Et puis Diamanti de Ferzan Ospetek avec Jasmine Trinca, Louisa Ranieri et Stefano Accorsi. Alors ben, on va vous parler de cette revue, on en a vu d'autres, mais c'est vrai que ben, il faut faire un choix. On va commencer par Diamanti, le film italien de Ferzan Ospetek, film qui est sorti, qui a été réalisé en 2024, qui est sorti en Italie en 2025. On nous dit d'ailleurs sur l'affiche que c'est le film phénomène de italien, puisque dans son pays, il a attiré 2 millions de spectateurs. Alors, de quoi nous parle ce film Diamanti ? Eh bien, dans ce film, en fait, le réalisateur Ferzan Ospetek rend hommage aux petites mains d'un atelier de couture qui a travaillé dans les années 70-80 pour le théâtre et pour le cinéma. Lui-même, Ferzan Ospetek, lorsqu'il était assistant réalisateur dans les années 80, a très bien connu ces ateliers de couture. Il a rencontré ces femmes et il a voulu leur rendre hommage dans ce film Diamanti. Finalement, les diamants, en fait, ce sont ces femmes qui courageuses et travailleuses et qui permettent finalement de rendre concrètes les idées des cinéastes finalement. Voilà, donc c'est un film aussi d'une certaine façon aussi sur le cinéma. Donc il y a un côté, c'est ça qui est intéressant dans ce film, une dimension totalement autobiographique. D'ailleurs, Ferzan Ospetek se apparaît lui-même dans le film. C'est-à-dire que le film commence avec le réalisateur entouré de ses actrices qui leur propose un projet. Voilà, ce projet, c'est de tourner un film sur cet atelier de couture, de haute couture, on pourrait même dire, sur ces femmes qui ont vécu dans les années 70. Et donc, c'est en fait une mise en abîme, en quelque sorte, qui est faite par le réalisateur. Et on retrouve le réalisateur à la fin du film, dans également une très belle séquence. Je ne vais pas divulgâcher la fin, mais je trouve que c'est un moment fort du film, un moment assez émouvant. Alors c'est un film qui est un film choral, bien sûr, un film collégial en quelque sorte, puisque évidemment il n'y a pas une héroïne, elles sont plusieurs. Alors c'est vrai que difficile pour le réalisateur et le scénariste d'évoquer en profondeur évidemment de faire un portrait, on va dire, exhaustif de toutes ces femmes. Donc il va quand même en choisir 3-4, voilà, on va s'attacher en particulier à 3-4 personnages du film. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui fait un peu la faiblesse du film, c'est-à-dire que en fait on a l'impression d'assister à une mini-série resserrée dans un film de 2h15. Le film dure quand même 2h15, et c'est vrai qu'en regardant le film, on se dit, bah tiens, ça aurait pu faire une série où chaque épisode aurait été consacré à une de ces femmes. Ça aurait été, chaque épisode, le portrait d'une de ces couturières. Et voilà, donc, ce qui fait que d'ailleurs aussi, visuellement, le film, même dans son découpage, peut ressembler à une fiction télé. Alors, les critiques un peu méchantes, un peu assassines, ont pu dire que ça ressemblait parfois à une telenovela. Bon, voilà, c'était assez cliché. Et on sent, sans aller jusque-là, mais c'est vrai qu'il y a quand même parfois quelques faiblesses d'écriture, et il y a des clichés, effectivement. Mais Ferzan Ospetek, je pense qu'on est parfaitement conscient, et il assume tout à fait ce côté mélo, un peu kitsch, et notamment sur certaines séquences et dans l'utilisation de la musique. Alors, la musique du film est magnifique, c'est une musique vraiment très mélodique, et le réalisateur n'hésite pas à la mettre en avant. Du coup, on est une sorte de film un petit peu à l'ancienne, qui n'évite pas parfois un certain académisme, mais ce qui fait que le film, pour moi, fonctionne, parce que bon, c'est comme sa galerie de personnages. Ce sont ses actrices. Et je veux dire que, notamment, les deux actrices principales, Louisa Ranieri et Jasmine Trinca, qui sont superbes. J'ai un petit faible pour Jasmine Trinca, que j'avais découvert dans le cinéma de Nanni Moretti. C'est une actrice fabuleuse qui est réalisatrice aussi à 16 heures. Et là, elle est magnifiquement filmée. Elle joue une partition dans ce film vraiment très subtile. Et moi, j'ai pleuré à un moment donné, parce que c'est vrai que chaque personnage a une histoire, évidemment, et le personnage de Jasmine Trinca, c'est quelque chose évidemment de très douloureux. Je vais pas vous en dire davantage, mais c'est vrai que l'actrice rend vraiment très très bien tous les sentiments. Elle est très expressive sans en faire trop, et voilà. Alors au finish, voilà, on a un film qui est quand même pour moi un petit plaisir coupable quand même, parce que c'est vrai que j'avais quand même beaucoup d'attentes sur ce film. Je m'attendais notamment au regard de l'affiche, l'affiche du film, avec cette robe rouge sublime. Je m'attendais à quelque chose peut-être de plus lyrique. Voilà, c'est pas vraiment le cas. C'est un huis clos dans cet atelier de couture, avec cette galerie de personnages. J'ai pensé parfois au cinéma d'Almodovar. Il y a un petit peu de ça quand même dans ce film, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques faiblesses au niveau de l'écriture, au niveau du scénario, et c'est un petit peu dommage. Alors surtout que, alors voilà, il y a comme cet aspect autobiographique que je trouve assez intéressant dans le film, et puis quelques personnages, voilà, il y a quand même, c'est un film qui n'est pas qui n'est pas complètement raté, hein, et je trouve que c'est un film qui mérite d'être vu, avec ces quelques bémols que j'amène, notamment donc sur l'écriture du scénario. Mais voilà, bon, les actrices sont sublimes, la musique est superbe, et donc nous avons un Diamanti qui est, voilà, on peut se laisser tenté franchement par ce film, même avec ses faiblesses. Alors après ce Diamanti, maintenant nous allons passer au cinéma français avec le dernier film de Jean-Paul Salomé, l'affaire Bojarski, où l'on retrouve Reda Kateb dans le rôle de Yann Bojarski, celui que l'on surnommait le Cézanne de la fausse monnaie, et qui a œuvré des années 50 aux années 60 comme faux monnayeur. En fait, voilà, c'était un spécialiste de la fausse monnaie. Et Reda Kateb, qui est entouré par Sarah Giraudeau et Bastien Bouillon. Alors, Laurent, tu as vu le film également. Qu'as-tu pensé de cette affaire Bojarski ?
Eh bien, ma foi, j'y allais quand même avec un petit a priori. Jean-Paul Salomé, c'est pas quelqu'un que j'affectionne particulièrement, mais il a fait des choses assez intéressantes, mais voilà, somme toute, quelquefois, on a l'impression qu'il, sur la matière où il aurait pu faire un très grand film, il trébuche sur la dernière marche, et voilà, ça en fait un film, ma foi, assez conventionnel. Là, l'affaire Bojarski, je suis quand même étonnamment surpris.
Il y a un sujet intéressant déjà.
Alors, il y a le sujet qui est intéressant, fort intéressant même. Le personnage est radicalement bien incarné par Reda Kateb. Bon, j'ai un petit faible pour l'acteur aussi. Je trouve qu'il illumine. Il a en plus un charisme, cet acteur. Donc, franchement. Mais c'est vrai que dans le casting, je suis assez surpris aussi de Sarah Giraudeau, qui est vraiment, je trouve, assez excellente dans le film. C'est un fait assez rare, parce qu'elle est quand même, elle transparaît toujours dans ses personnages un peu fragiles. Et là, pour le coup, bien son personnage est important dans le film.
Et alors, en plus, parce que moi, j'ai quand même un petit problème avec Sarah Giraudeau.
Oui, je sais.
C'est sa voix.
Oui,
hein, parce qu'elle a cette voix au perché. Me gêne toujours un petit peu. Et là, j'avoue que dans le film, je pense qu'elle a dû batailler contre ça. C'est toujours là, mais finalement, ça passe. Et parce qu'elle le joue bien, comme tu dis. Elle joue effectivement très bien ce personnage.
Oui. Et puis, surtout, il ne faut pas oublier Bastien Bouillon, parce qu'il semblerait que ces derniers 6 mois... Eh bien, les films les plus intéressants, en tout cas en France, sont joués, entre autres, dans le casting il y a souvent...
C'est un bouillon. Ouais.
Voilà. Donc,
il choisit bien ses films.
Alors,
il y a un petit côté commissaire Jouve, hein, Bastien Bouillon, dans ce film.
Oui, c'est vrai. Et peut-être que la nuit du 12 a été vraiment un véritable tremplin pour l'acteur.
Pour lui, oui.
Et du coup, c'est vrai que... je crois qu'il est vraiment sur la rampe de lancement, et c'est vrai que à chaque fois c'est des projets assez intéressants. Donc là, dans le film, il est quand même là encore bon acteur, et puis avec une certaine rigueur, même s'il y a ce côté un petit peu commissaire Jouve, comme tu le dis.
Oui, à la recherche de son fantomas, parce que c'est pas sur plusieurs années, c'est-à-dire qu'il essaye de le coincer, ce Bojarski. Mais, alors, on va pas tout raconter, mais ça nous vaut notamment une séquence... assez amusante dans le film.
C'est vrai. Pour le coup, ce qu'on a oublié de dire quand même, sans spoiler l'histoire, c'est que ce Bojarski, c'est un ingénieur polonais qui est réfugié en France pendant la guerre. Et en fait, il a tout un tas d'inventions qu'il n'a jamais fait breveter.
En tout cas, qu'il a essayé de faire breveter. Hein.
Mais qui, malheureusement... Mais... Et c'est aussi un film assez intéressant de ce point de vue-là. C'est qu'en fait, du fait que c'est un émigré...
D'origine polonaise.
Voilà, les portes lui sont totalement fermées.
Ouais.
Donc, du coup, ce qui explique... cette entrée dans l'illégalité. il y a quand même un bon suspense, je dirais.
Oui, d'ailleurs, le film commence un peu sur les chapeaux de roue, avec une séquence assez violente, d'ailleurs.
Hein. Oui, assez violente. Hein,
Moi, ça m'a fait penser, tu sais, à une sorte de pré-générique façon Les Brigades du Tigre, un petit peu, tu vois.
On peut dire ça, mais il y avait aussi ce film, film contemporain, mais qui a été qu'on avait eu il y a pas très très longtemps sur l'histoire de ce braquage, où il y avait aussi Reda Kateb, et donc je trouve que dans la forme, c'était en tout cas l'introduction était, je dirais, du même niveau, assez vraiment avec une violence assez crue,
assez sèche aussi. Oui. Ouais.
Mais bon, c'était un film qui était quand même plus,
un film
plus concis,
norvégien. Oui. Je sais plus, ou danois.
Oui, 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 concis, nerveux, et vraiment dégraissé jusqu'à l'os. Hein, c'est vrai, c'était un film relativement court. Là, pour le coup, l'affaire Bojarski, bon, c'est un film cinéma populaire, comme on l'aime.
Dans le film que tu évoques, Reda Kateb, c'était un vrai pourri, quand même.
Ah oui.
Alors que ce n'était pas le cas. Pourtant, on a pas mal d'empathie pour ce personnage.
C'est vrai, c'est vrai. Il y a cette dimension totalement humaine qui est abordée par Jean-Paul Salomé. Bon, franchement, c'est un film, en tout cas, moi, qui m'a bien plu. Et donc, du coup, je dirais que c'est un très bon moment, plus de 2 heures, mais franchement, il n'y a pas réellement de longueur, on se laisse porter par l'histoire, c'est assez fluide au niveau de l'écriture, donc vraiment, je dirais une belle réussite. Voilà.
Oui, c'est ça, c'est vrai qu'on est dans un cinéma français, un peu classique, comme on faisait avant, alors peut-être un chouïa académique quand même.
C'est pas le chef-d'œuvre, mais il y a quand même
un bon sujet, parce que moi j'ignorais qu'en fait il y a aussi le personnage qui fabrique de la fausse monnaie, mais en fait qui a une philosophie particulière là-dessus, et puis qui est aujourd'hui exposé d'ailleurs. Hein, c'est l'artiste de la contrefaçon, on va dire.
Tout à fait. Ben, il faut dire qu'il était quand même bien meilleur que les artisans qui fabriquaient la vraie monnaie.
Oui, ça, c'est assez amusant, ça aussi, oui, tout à fait. Bon, donc on peut aller voir l'affaire Bojarski sans problème, bien sûr.
Ouais. Je voulais juste un petit peu rajouter, mais qui n'a rien à voir avec le film. C'est qu'en fait, le seul petit bémol, c'était les conditions de projection. Parce que sortir un film, une nouveauté, en tout cas, sur le centre de Limoges, dans une salle très petite, alors que ce film était très attendu, la salle était quasiment pleine, donc des conditions, vous imaginez, de projection assez déplorables pour ceux qui se retrouvaient au premier rang. Voilà.
C'est dommage.
Donc là encore, ce sont les méandres de choix de programmation, d'une nouveauté, dans une salle très moyenne. En termes de capacité. Donc franchement,
c'est assez curieux parce que en plus le film passe simultanément à Esther. Donc oui, ils attendent certainement du public sur ce film. Donc c'est un peu curieux en effet. Oui.
Surtout en plus bon à des horaires où on sait qu'il y aura affluence pour d'autres films aussi. Donc assez incompréhensible.
Voilà, moi je l'ai vu sur Esther. Bon voilà, un petit peu différent. On va terminer cette sélection par un film que je n'ai pas vu cette semaine, mais que tu as découvert, Laurence, c'est Grand Ciel, un film franco-luxembourgeois de Akihiro Hata avec Damien Bonnard dans le rôle principal.
Oui, Damien Bonnard et Samir Ghemmi, qui en fait deux acteurs que l'on connaît. Alors peut-être que vous connaissez peut-être pas trop ces acteurs, parce que souvent ce sont des acteurs qui occupent des seconds rôles. Et là, le film est assez intéressant. C'est le premier long métrage en fait du réalisateur. Il a déjà fait deux courts métrages. Et donc là, il aborde en fait l'exploration du monde du travail avec son premier long métrage autour d'une équipe de nuit du chantier d'un éco-quartier futuriste et se concentre sur l'affrontement. Alors, entre deux ouvriers, l'un qui est expérimenté, qui est joué par Samir Ghemmi, et est très à cheval sur les questions de sécurité, et négligé donc par leur employeur. L'autre, qui est joué par Damien Bonnard, qui est nouveau venu, est beaucoup moins regardant, car il est étranglé financièrement et donc du coup il accepte des conditions de travail qui ne sont pas forcément qui sont à la limite de la légalité et donc jusqu'au jour où l'un de leurs collègues disparaît. Est-ce qu'il a démissionné? Est-ce qu'il est mort accidentellement avant qu'on ne le fasse disparaître son corps? C'est le questionnement qui est au cœur, en fait, de la mutation de Grand Ciel, une chronique sociale, un récit qui verse vers le fantastique, en faisant de ce chantier un personnage à part entière, une sorte d'ogre, avalant donc ces forçats du travail. C'est aussi cette réussite dû à ce travail assez minutieux qui a été fait sur la lumière de David Chisalé qui avait travaillé sur Mustang et qui participe à ce climat de tension assez angoissante symbolisant donc la manière dont la précarité conduit à la disparition d'identité des plus faibles. C'est un film moi que j'ai trouvé assez captivant dans la façon dont il est tourné, la forme aussi qui est assez intéressante. Et du coup, je pense que ce metteur en scène sera très certainement à suivre dans les années à venir. Donc en tout cas, c'est une belle entrée dans le cinéma et le long métrage. C'est une belle initiative en tout cas, parce que ça aurait pu être un film tout à fait conventionnel, comme on a vu largement sur les conditions de travail. Là, c'est plus précis, c'est assez documenté hein, sur le milieu du BTP. Franchement, ça vaut le détour.
Eh bien, merci Laurent, nous allons suivre ton conseil. Alors, ce soir, vous avez eu trois univers complètement différents. L'univers du BTP, l'univers de la haute couture et l'univers des gangsters, voilà, avec l'affaire Boujarski. Alors évidemment, on a quand même un petit faible pour l'affaire Boujarski. Mais voilà, il y a une grande diversité de.
Oui, on aime l'éclectisme dans Cinéscopie.
On est éclectique, on aime ça.
On essaye de vous parler de cinéma de tout horizon aussi.
Exactement. Ouais. Ce soir, l'Italie et la France. Et puis voilà, il est 21h, 22h et 21 minutes. Alors, est-ce qu'on fait une petite virgule musicale ou
une petite virgule. Allez, une petite chanson d'ailleurs. Allez, en hommage. C'est une chanson dédiée d'ailleurs à l'acteur Jean Dujardin par une chanteuse que vous connaissez, c'est Jeanne Chéral. Oui. C'est son dernier album.
Qui est très bien d'ailleurs.
Voilà. Belle plume, hein, mais ça, oui. C'est connu. qui travaille bien sûr pour elle, mais aussi pour les autres, qui est auteur-compositeur. Et donc là, on va goûter à la chanson qu'elle a dédiée à son compagnon, semble-t-il, Jean Dujardin. Et donc, on écoute cela. Ça dure à peu près 3 minutes et on se retrouve après pour vous annoncer quelques sorties sur Limoges. Qu'est-ce que vous pourrez voir à partir de mercredi? Tout de suite, Jeanne Chéral.
Jean, j'en ai marre de rêver de vous, Jean. J'en ai marre de parler de vous, Jean. J'en peux plus de ne penser qu'à vous. Jean, on est connu des plus forts que vous, Jean. On est connu des plus beaux que vous, Jean. On est connu, mais il n'était pas vous.
Chanson de Jeanne Chéral consacrée à Jean Dujardin. Et bien maintenant, 22h26, on va vous parler des films qui vont sortir sur vos écrans ce mercredi. Alors on sait déjà qu'il y a au moins deux grosses productions. Nuremberg avec Russell Crowe et Rami Malek, qui s'annonce vraiment très très intéressant. La Grazia, le dernier film de Paolo Sorrentino, là aussi je pense que ça va être quelque chose, hein, vraiment, pour moi c'est un des films en tout cas que j'irai voir cette semaine, peut-être avec Nuremberg, et puis le dernier film de Pierre Niney, un peu comme Bastien Bouillon, il truste pas mal les écrans Pierre Niney ces temps-ci, et il revient dans un film de Yann Gozlan. Il avait déjà tourné avec lui notamment le film Boîte Noire, et il revient dans le rôle d'un gourou, d'ailleurs le film s'appelle Gourou, donc Gourou Nuremberg.
Film très attendu. Mais bon, on en dira un petit peu plus quand on les aura vus, hein. Et on pourra voir aussi le film de Michel Franco, avec Jessica Chastain, Isaac Hernandez. Ça s'appelle Dreams. Et donc ça sort mercredi, histoire de ce jeune danseur de ballet originaire du Mexique qui rêve de reconnaissance internationale et d'une vie meilleure aux États-Unis, et convaincu que sa maîtresse, une américaine mondaine et philanthrope influente, l'aidera à réaliser ses ambitions, il quitte clandestinement son pays.
Ah, Jessica Chastain, voilà. Bon. Que ne ferait-on pas pour Jessica Chastain?
Alors ensuite, un film de Jonas Trueba avec Itzao Arada, Francesco Caril, c'est la Reconquista. Donc, ça se passe à Madrid, l'histoire de Manuela et de Olmo, qui se retrouvent autour d'un verre et qui, après des années, elle lui tend une lettre qu'il lui a écrite 15 ans auparavant, lorsqu'ils étaient adolescents et vivaient ensemble leur premier amour. Et le temps d'une folle nuit, ben Manuela et Olmo se retrouvent dans un avenir qu'ils s'étaient promis. Voilà.
Donc ah, film, ça peut être intéressant.
Oui. Alors, film d'animation, là aussi, très certainement très attendu. C'est l'adaptation de la célèbre BD de Guillaume Hivernel, Les Légendaires. Donc ça sort là aussi mercredi. Et puis encore un film dramatique, film réalisé par Erigué Sein, pardon. C'est Promis le ciel, avec Aïssa Maïga, qui raconte l'histoire de Marie, pasteur ivoirienne et ancienne journaliste, qui vit à Tunis, et donc elle héberge Nani, une jeune mère en quête d'un avenir meilleur, et Jolie, une étudiante déterminée qui porte les espoirs de sa famille restée au pays. Et donc quand les trois femmes recueillent Kenza, 4 ans, rescapée d'un naufrage, eh bien leur refuge se transforme en famille recomposée, tendre mais tranquille, dans un climat social de plus en plus préoccupant. Et donc, d'autres sorties pour ce qui est du cinéma art et essai, nous avons... Ben, il y a aussi la sélection de Télérama qui tourne toujours. Donc en fait il n'y a pas énormément de sorties sur le cinéma RSC. Il y a des avant-premières au passage de Ryota Nakano, c'est Mon grand frère et moi, comédie dramatique, qui va bénéficier d'une avant-première mercredi. En soirée, le film sort le 29 avril. Voilà. Et puis, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, hein, Chris.
Oui. Bah, écoute, effectivement, je pense que voilà, il y a des films assez passionnants qui arrivent. Bon, le Paolo Sorrentino, hein, où l'on retrouve ses acteurs fétiches, notamment Tony Servillo dans le rôle principal, le rôle de Mariano De Santis, président de la République italienne.
Je voudrais juste rajouter deux sorties, un film de science-fiction de Timur Bakmambetov avec Chris Pratt, c'est Reconnu coupable.
Ah oui. Rebecca Ferguson aussi dans le film.
En fait, ça se passe dans un futur proche. L'histoire d'un détective qui est accusé de meurtre de sa femme et s'est jugé par une intelligence artificielle ultra performance qui a lui-même contribué à mettre en place. Et il n'a que 90 minutes pour prouver son innocence avant qu'elle ne scelle son sort. Voilà. Ça rappelle quelques films. Hein,
oui.
Et puis, pour en terminer, un autre film, Howard Zinn, une histoire populaire américaine, de Olivier Azam, avec Howard Zinn, C'est un documentaire, c'est le best-seller, une histoire populaire des États-Unis qui a révélé aux Américains une part de leur passé longtemps ignorée par eux-mêmes, redonnant une place dans l'histoire aux Amérindiens, aux Noirs, aux ouvrières et aux ouvriers pris dans la grande fabrique du rêve américain, donc le travail de Ward Zinn qui s'est opposé au mythe fondateur depuis Christophe Colomb et s'impose aujourd'hui comme un contre-feu à la guerre idéologique menée par leur président Donald Trump. Voilà. Un film qui remet un petit peu les pendules à l'heure. Voilà.
C'est ça.
C'est qu'on ne peut pas refaire d'histoire d'un pays rien que par un discours totalement inventé. Voilà. Donc tout ça, ça sort mercredi. Ça sera sur le cinéma Esther. Voilà.
Parfait, merci Laurent pour ces annonces. Et du coup, nous allons nous quitter. On vous donne rendez-vous lundi prochain sur RTF. Et on vous souhaite évidemment de passer une excellente semaine dans les salles de cinéma, aller découvrir les films dont nous avons parlé ce soir ou ceux qui vont sortir, les nouveautés encore assez nombreuses qui sortent ce mercredi. Donc excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de RTF. Très très bonne semaine à toutes et à tous. Laurent également,
oui, bonne semaine à vous, allez fréquenter les salles obscures. En plus ils annoncent une température assez fraîche, donc oui, allez vous réchauffer, humide aussi, donc allez donc au chaud et au sec, voilà. Au cinéma, et puis bon, c'est vrai que ça marche bien depuis que le cinéma RAEC a fait sa rénovation, vraiment une belle fréquentation, et c'est vraiment un bel hommage que l'on peut donner au cinéma d'auteur et cinéma RAEC. Donc allez vraiment fréquenter ces salles pour avoir un programme toujours plus éclectique, je dirais. Allez, passez une bonne semaine et à lundi prochain.
Ciao, ciao.
Salut.